Bonjour à toutes et à tous. Enchanté de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de la moto sur Radio Campus Lille. Au menu de cette émission, le programme de la célèbre balade des vieux clous qui aura lieu le week-end prochain du 20 au 22 mai. La balade des vieux clous est un rallye de plus de 600 km réservé aux motos de plus de 25 ans. Comme nous l'explique Jean-Paul de Creton, le président de la confrérie. Hommage à Fabrice Miguet, le pilote français le plus rapide de l'île de Man. Nicolas Langlas et Jean-Michel Meunier du Vauxhall Club de France étaient présents à Chambois dans l'Orme le 30 avril dernier pour l'inauguration de la statue de Fabrice décédé en 2018 au Grand Prix d'Ulster. Et pour terminer ce sommaire, plein feu sur les coupes Motolégende qui auront lieu les 27 et 28 mai prochains sur le circuit de Dijon-Prémois. Xavier Bonny, directeur éditorial et événementiel des éditions LVA, nous donne le programme du plus grand rassemblement européen de motos de collection. A tout de suite après le morceau de musique. Là, je suis en compagnie de Jean-Paul de Creton, Jean-Paul qui est le président de la confrérie des vieux clous. Jean-Paul, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Les 20, 21 et 22 mai, ce sera la balade des vieux clous.
Oui, ça sera la 43e édition de cette balade, oui.
43 ans de balade avec les Covid ou vous avez enlevé les 2 ans
Non, on a enlevé les 2 ans. Malheureusement, on a sauté 2 ans. Donc, on devrait être normalement à la 45e, mais on n'a pas voulu modifier l'ordre. Donc, bon.
C'est le grand retour de la balade des vieux clous.
Ah oui, après 2 ans d'attente et d'espérance, pouvoir enfin refaire cette sortie, c'est fantastique, quoi.
Très bien. Alors, c'est prévu donc 650 km.
Alors, cette année,
moi, j'ai vu entre 450 et 500, mais tu me dis que non,
Vous
allez faire 600 km.
Cette année, on va faire plutôt 650 km, en 3 jours et avec des vieilles bécanes, quoi.
D'accord. Donc, c'est ouvert aux motos et 3 roues de plus de 25 ans.
Oui, c'est la limite de manière à pouvoir accueillir des jeunes qui n'ont pas trop les moyens d'acheter ou de se procurer et de restaurer des très vieilles machines. Donc, c'est ouvert aux machines de plus de 25 ans, mais bon, bien sûr, plus c'est vieux, plus c'est sympa, quoi. Donc,
voilà. Plus c'est vieux et mieux c'est.
Voilà, mieux c'est. Tout à fait.
Voilà. Excuse-moi, alors, parce qu'il faut faire venir les jeunes, parce que je sais que vous êtes assez strict sur la conformité des machines. L'âge des machines.
L'âge des machines, oui, mais c'est-à-dire qu'il y a, au début, quand la balade a été créée avec l'association, avec la confrérie, on avait limité donc la participation aux machines d'avant 1959. Et puis pendant longtemps, c'est resté comme ça. Mais on avait de plus en plus de têtes grises. Des vieilles machines, oui, mais aussi des vieux pilotes.
Ils pilotent aussi au vieilli,
voilà,
et malheureusement...
Il nous manquait vraiment beaucoup de 109, et on a pris cette décision d'ouvrir, un peu comme les Anglais le font, donc la participation à la balade aux machines de plus de 25 ans. Alors en France, la réglementation dit machine de collection, véhicule de collection, quand ça a plus de 30 ans, pour l'instant ça risque d'évoluer, mais pour l'instant c'est plus de 30 ans. Mais nous, on a plutôt eu envie de suivre ce que les Anglais font en disant plus de 25 ans, c'est déjà collectionnable, c'est déjà à mettre, à préserver et à faire attention, quoi.
Alors, plus de 25 ans, ça fait quoi? Ça fait des machines...
T'as des machines, oui, t'as des...
Là, on est en 2022.
Ça fait...
Les GSX-R, Suzuki...
Oui, tout à fait. Mais bon... Je ne dis pas qu'on refuserait l'inscription à des gens avec des machines comme ça. Il y a des gens avec des quatre pattes, avec bien sûr. Hein, ou bien des Kawasaki, 3 cylindres de temps, les bêtes de l'époque, quoi. Mais c'est pas... Enfin, les petites routes qu'on emprunte, elles ne sont pas faites pour ces machines-là. Donc, les gens... Il y a une limitation, de fait, naturelle, quoi.
Très bien. Comment, justement, le parcours, c'est dans les Flandres.
Alors, là, cette année, donc...
En Belgique.
Alors, il y a un petit peu de Belgique du vendredi matin, un tout petit peu, pour partir de Lambersart. On part de Lambersart. Au contraire de ce qui s'était passé les quelques éditions précédentes où on partait de Merville, là, on revient sur Lambersart pour partir. Mais juste pour partir, on passe par la Belgique et on s'arrête le midi du vendredi midi à Bergues, là où il y aura une exposition donc sur la place Gambetta de environ 12h à 13h. Et ensuite, de 13h à 15h, sur un parking à côté de la biscuiterie La Dunkerquoise, donc à Bergues, aussi derrière la gare. Donc une exposition, les participants profiteront pour déjeuner, et puis les motos seront exposées sur ce parking.
En fait, là, on ne va pas au musée, mais c'est le musée qui vient...
Ah, c'est le musée qui
vient,
c'est de l'ambulant.
Qui vient aux spectateurs.
Voilà, tout à fait.
Voilà.
Donc, le parcours, donc un petit peu du vendredi matin, un petit peu de la Belgique, et puis on rentre dans les Flandres pour remonter sur Bergues. Et l'après-midi de Bergues, donc à partir de vers 15h, les départs s'échelonneront à partir de 15h. On ne part pas en cortège, ce n'est pas une longue file de 100, on sera à peu près 100.
Oui, ça fonctionne
100.
Comment?
Là, c'est un parcours au roadbook. Et en général, c'est des départs, les gens se joignent à 3, à 5 et partent ensemble et font la route ensemble. Et donc l'après-midi, on part de Bergues pour aller rejoindre la côte. Donc en passant par la pas tout à fait en longeant la côte, on est un petit peu dans les terres, mais on arrive sur Stella Plage.
Très bien. Et ensuite, vous arrivez ici sur la métropole lilloise ?
Ah non. Là, en fait, on part de la métropole lilloise et on revient à la métropole lilloise du dimanche soir. Mais tous les parcours se font assez loin de la métropole, puisque là, cette année, notre camp de base, ça va être Stella Plage. Et donc, du samedi matin, on part de Stella-Plage et on longe là la côte. On va aller friser le Cap Grinet et on va aller sur Guines. Donc, où il y aura une exposition aussi pendant l'heure du déjeuner, là, d'environ aussi de midi jusqu'à 15 heures, à l'auberge du Colombier.
Voilà. Très bien. Si on revenait un petit peu sur l'historique de cette balade des vieux clous, ça a commencé en 1978.
En 78, oui, ça fait un
bail. À l'initiative de Gilles
Détailleur. Gilles Détailleur, donc le fondateur de
Fondateur,
de la confrérie, oui. Et puis de cet événement qui commence. Qui a une portée, je dirais, déjà internationale depuis pas mal d'années, quoi. Hein ?
Alors, l'objectif, c'était de réunir les amateurs et utilisateurs de motocyclettes anciennes. Alors là, d'avant 1959.
Hein. Oui, à l'époque, c'était ça.
C'était ouais. ça. Ouais. Bon, ouais. Bon, ça devient de plus en plus difficile, quand même, de faire un...
On y arrive quand même.
De réunir un maximum de gens avec des motos d'avant 59.
D'avant 59, mais on y arrive. Il y a certains événements à l'étranger ou même en France qui sont réservés aux machines plus que centenaires, d'avant 1920, d'avant 1914. Et on arrive à regrouper quand même la plus importante et la plus ancienne, c'est quand même une manifestation qui s'appelle le Pioneer Run, donc qui fait Londres-Brighton, réservée aux deux et trois roues d'avant 1914. Et il y a les grandes années, on arrive à être plus de 350 participants avec des machines d'avant 1914. Hein. Et sur route ouverte, bon, on ne fait pas énormément de kilomètres, il y a 80 kilomètres à peu près à faire entre Epsom et Brighton. Mais c'est un dimanche, c'est une fête à vivre. Pour les amateurs de vieux trucs, c'est vivre.
Des vieux trucs.
Des vieux trucs, oui. Oui, ouais, parce que bon, quelquefois on regarde, on ne voit pas vraiment où est la moto. Quoi.
Bon, la date de cette balade a toujours décalé à l'avant-dernier week-end du mois de mai. Ça a toujours été le cas.
Oui, ça a toujours été le cas comme ça. Ouais.
Et oui, ça a commencé. Oui, alors c'était la première balade a eu lieu à la ferme du Mont Garin, à Lanversin.
Ouais, pendant des années, on a eu comme ça.
Je me souviens. Pendant des années.
Ouais.
Voilà. Et donc, au fil des années, très rapidement, la balade passa d'une journée en une sortie sur deux jours.
Ouais,
et là, maintenant, vous êtes sur trois jours.
Et deux jours et trois jours, parce qu'on avait une participation, je dirais, assez importante d'anglais. Et puis, à un moment donné, ils nous ont dit, pourquoi pas venir faire une journée de balade en Angleterre. Ce qui a été fait pendant pas mal d'années, on a fait ça. Donc, le vendredi matin, on prenait le ferry, on allait se balader dans le Kent.
À partir de 1981, vous avez pris le ferry.
Ouais.
Le samedi matin, vous preniez...
Non, c'était le vendredi matin.
Le vendredi matin.
Ouais.
Et vous avez retrouvé les Anglais qui vous attendaient là-bas,
au port de Douvres. Et le soir ou le lendemain matin, donc soit le vendredi soir, soit le samedi matin, on reprenait le ferry tous ensemble, donc les Anglais et les Français, pour revenir donc sur Calais et revenir sur finir la balade sur le nord de la France. Quoi.
D'accord. Sans dire que les bonnes tables des vieux clous font partie intégrante de la renommée internationale de la confrérie de...
Oui, on a cette...
Et de sa balade.
Cette renommée de qu'on mange bien lors de la balade.
Voilà.
Et c'est apprécié par nos amis, nos voisins étrangers, qu'ils soient belges, hollandais. On a eu quelquefois aussi des Norvégiens, des Allemands.
Est-ce qu'on peut encore s'inscrire, effectivement? C'est la semaine prochaine.
On est dimanche, il n'y a plus que 8 jours. Non,
les 8
inscriptions,
jours,
on a, avec le Covid, ça a été très compliqué. Et on a ouvert les inscriptions vraiment très tard, donc en tout début d'année. Et en 15 jours, les 80 places, j'avais à cette époque-là 80 places possibles. Les 80 places ont été prises et j'avais tellement un afflux qu'on s'est vraiment démerdé comme des enragés pour pouvoir accueillir plus de monde. Et on a réussi à trouver de l'hébergement donc à un même endroit pour être tous en même temps, tous ensemble au même endroit, pouvoir manger tous ensemble. C'est un peu compliqué quand on a des populations comme ça qui arrivent aux alentours de 120 personnes. Et on a réussi à trouver de l'hébergement pour 117 personnes. Donc, ça a été fermé, les inscriptions ont été fermées au bout de 15 jours.
C'est clos,
15 jours.
D'accord, mais c'est pas trop difficile de reprendre après deux ans là, d'arrêt de manifestation, parce qu'il faut reprendre ses marques.
Il faut reprendre ses marques.
Ça a fait beaucoup de dégâts, Mais le Covid dans les assos. Hein,
oui, mais on est une vieille asso quand même, hein, de plus de 40 ans. On a nos habitudes, nos contacts, nos partenaires qui ne nous ont pas lâchés. Il y a certains partenaires qui avaient versé leur sponsoring pour 2020. Et en fait, quand on a dû annuler l'édition 2020, je les ai appelés en leur demandant s'ils voulaient être remboursés ou bien. Et ils m'ont dit non, tu gardes. Et puis quand ça redémarrera, ça servira. Quoi. Donc,
Très bien. Alors en 1995, la confrérie des véhicules adhère à la FFVE, hein, la Fédération française des véhicules d'époque.
Oui, tout à fait. Une des premières associations.
Dont tu es aussi l'un des représentants.
J'ai été élu. Comme administrateur pour le collège moto, là, au début de cette année. Là. Et donc, pour un mandat de 3 ans.
Très bien. Bah, on fera une petite séquence sur tout ce qui va nous arriver là, prochainement. Après les élections, tu m'as dit. Parce que quand il y a les élections, il y a une qui se fait. C'est après que ça
tourne un peu au ralenti, quoi.
D'accord. Bon, on revient un petit peu sur cette balade des vieux clous, hein, ouais. 20, 21, 22 mai. Hein. Moi, je suis spectateur. Donc, on rappelle où je peux aller les voir. C'est ces motos anciennes.
Les rappels, sur les 3 jours. Donc, le samedi midi, donc, c'est Berg. Hein, donc sur la place Gambetta et après sur un parking à côté de la gare, juste à côté de la biscuiterie la Dunkerquoise. J'ai oublié, le samedi matin aussi, hein, de 7h30 à 9h, les motos donc, qui prendront le départ seront visibles aussi sur l'établissement donc, de la biscuiterie Eugène Blon à Lambersart. Hein. Donc ça peut faire l'objet d'une petite expo quoi. Les gens, on déballera tout, mais voilà, ça
donc le début de la balade se trouve là.
Oui, le début de la balade, le départ c'est à la biscuiterie Eugène Blon à Lambersart.
Très bien.
Donc le midi, donc je reviens donc Berg, l'ordre chronologique. Hein. Berg, place Gambetta de midi à 13h, et ensuite le parking de la biscuiterie donc la Dunkerquoise. À côté de la gare, de 13 à 15. Le soir, éventuellement, à partir de 18h jusqu'à 19h30, 20h, les motos seront visibles aussi sur le parking de l'établissement Stella Maris, à Stella Plage, CUC Stella Plage.
Oui.
Le samedi midi, donc l'exposition à l'heure du déjeuner, de midi à 15h, à l'auberge du Colombier, à Guines. Le soir, de nouveau, c'est la plage, à peu près 17h jusqu'à 19h30, 20h, à Stella Plage, donc sur le parking de Stella Maris. Et le dimanche midi, exposition à l'aérodrome de Merville, donc à côté du restaurant L'Hélice, donc là, l'enceinte de l'aérodrome. Là aussi, environ de 12h à 15h. Et dernier point, mais là, ça va être un peu le démantèlement, ça va être un peu le beans, parce que les participants vont revenir sur Lambersart, donc toujours à la biscuiterie Eugène Blon. Et là, ils vont s'arrêter, se déshabiller, charger les motos sur les remorques pour ceux qui sont... Et rendez-vous l'année prochaine. En espérant être encore plus nombreux, et voilà.
Très bien. Donc tout ça, hein, c'est dans un esprit convivial, hein, aussi bien pour le public hein, que pour les gens qui viennent avec leur moto et qui vont participer à la balade. Hein.
Ouais. On prend du plaisir, on se prend pas la tête.
Voilà, c'est ça le concept hein, de la balade des vieux clous. Voilà, une toute dernière chose.
On espère avoir du soleil.
Vous avez commandé le soleil, comme tout le monde.
Comme tout
organisateur de manifestation.
C'est jamais garanti.
Oui, ça fait 50%
Même quand il pleut, on s'amuse. Hein.
Alors, est-ce que les gens qui ont adhéré, ils ont payé le prix de l'adhésion déjà.
Oui, bien sûr.
Est-ce que s'ils voient le temps qui n'est pas bon, pas propice à faire de la moto, qu'ils se désistent ou ils viennent quand même?
Non, à 100%, ils seront là.
Ils sont là?
Avec de l'eau ou du soleil, mais ils seront là.
Ouais, d'accord. Très bien. Ouais. Donc, on est sûr d'avoir toujours le spectacle si on vient voir les machines. Eh bien, Jean-Paul, je te remercie.
Ben de rien.
Et puis, je te souhaite un bon dimanche.
Ben merci à toi. Et donc, à très bientôt et à ce week-end.
À l'année prochaine,
à peu près à la
44e.
Ouais, 44e.
Enfin, attention, avec ce truc-là. Voilà, très bien. Merci, Jean-Paul.
Allez, au revoir.
Nicolas, bonjour.
Salut la Miche.
Alors, le 30 avril, tu étais à Chambois dans l'Orne.
Oui, nous étions à Chambois dans l'Orne, Sylvie et moi, pour un événement un peu particulier, une commémoration pour Fabrice Miguet. Donc, sa statue a été dévoilée le samedi 30 avril.
Alors, j'ai vu qu'il y avait entre 500 et 600 motards qui étaient présents et qui ont fait le déplacement.
Beaucoup de monde, beaucoup de personnalités, un peu de politique, un peu de mairie, mais beaucoup de motocyclistes et aussi des gens de l'île de Man, des habitants et des fanfares de l'île de Man.
D'accord. Et puis, dis-nous un peu, parle-nous un peu de Fabrice Miguet. Qui était ce pilote?
Alors, Fabrice Miguet, c'était notre héros national, un Français sympathique qui courait, qui faisait les courses sur route à l'île de Man, un peu d'endurance aussi, mais sa principale activité, c'était surtout l'île de Man et les courses sur route. Et malheureusement, il est décédé en août 2018 au Grand Prix d'Ulster.
Eh bien, tu as pris du son là-bas et tu fais l'interview de Michel.
Oui, alors nous avons interviewé Michel qui est président de l'association Fabrice Miguet. Et lui et ses amis se sont démenés pour qu'on se souvienne toujours de lui. Et surtout, à mon avis, il devait l'apprécier énormément. Mais bon, voilà.
Très bien, Nico. Ben, écoute, on écoute Michel.
Salut, Michel.
Salut.
Salut, Michel. Alors, on est à Chambois, dans le département de l'Orne, c'est ça?
C'est ça.
Et on est ici pour l'hommage à un pilote français, figure emblématique de la moto. Et tu vas nous dire qui était Fabrice Miguet.
Ben, Fabrice Miguet, pourquoi on est à Chambois? C'est parce qu'il y est né. S'il est natif, c'était vraiment l'enfant du village. Et après, Fabrice Miguet, c'est quelqu'un qui a toujours vécu dans le monde de la moto. Enfin, il avait une passion qui était la moto. Il a couru un peu partout dans le monde. Il a fait beaucoup de circuits. Et après, il s'est lancé sur les courses sur route. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a vécu de cette passion. Et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, quoi.
Et je vais te poser quelques questions. Fabrice Miguet, c'était quelqu'un qui n'avait pas les moyens. C'était un passionné.
C'était un vrai passionné, hein. C'est en fait vraiment d'un autre temps, parce que pour se faire ses courses, voilà, fallait qu'il essaie de trouver des choses à vendre, il travaillait quand il pouvait, enfin, lui il vivait que pour cette passion, que pour la façon de faire des courses, enfin, il avait vraiment que ça en tête, c'était vraiment son point de vue de vivre comme ça, et c'est beau, quoi. C'est beau comme il l'a vécu. Quoi.
Et c'est pour ça qu'on le respectait, parce que on l'aimait, on l'adulait, parce que c'était quelqu'un qui vivait de la débrouille et il n'y avait pas de gros moyens financiers pour aller faire ses courses.
Exactement, c'est exactement ça. Il n'était pas du genre à commencer avec des pneus neufs. Hein. Il partait souvent avec des anciens pneus. Et puis il s'organisait notamment sur quelques années à vendre du vin. Il vendait du vin avec une étiquette qui était à son effigie. Et c'est avec ça qu'il arrivait à se payer ses courses, à se payer les déplacements et ainsi de suite. Quoi.
Ouais, parce que si on est là, c'est parce que malheureusement, Miguet est décédé.
Oui, Fabrice s'est tué en course Grand Prix d'Ulster en 2018. Hein. Voilà, un accident bête. Ça a vraiment foutu un coup à évidemment tous ceux qu'il connaissait, puisqu'il était suivi énormément. Déjà, il était estimé de nombreux pilotes. Hein. Il était suivi par beaucoup de personnes, notamment sur les réseaux sociaux. C'était, comme je le disais, l'enfant du village de Chambois. Donc ça a mis vraiment un coup. Il le suivait aussi beaucoup. Et donc ça nous a un petit peu percuté, même beaucoup, et toute l'organisation qu'on a mis en place après son enterrement, c'est qu'on s'est dit que ça pouvait pas s'arrêter comme ça. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a souhaité créer une association avec les amis, ceux qui voulaient participer, la famille. Quoi.
D'accord. Et donc avec cette association, vous avez fait fabriquer cette magnifique statue pour lui rendre hommage, lieu de recueil. Exceptionnel en France d'ailleurs, parce que à mon avis il ne doit pas avoir beaucoup de statues moto, peut-être des stèles mais pas de statues.
C'est ça.
Donc c'est, on va dire, une première.
C'est une première. Alors ça a été un choix, une décision qui a été prise très rapidement, hein, parce que l'idée c'était qu'on puisse le refaire revenir à Chambois pour le faire vivre. Et comment qu'on pouvait le faire vivre, bah, c'était par le biais d'une statue. Chambois, c'est connu par le couloir de la mort, on a énormément de monuments aux morts aussi. Et bah, nous, c'est pas un monument aux morts qu'on a voulu mettre en place, c'est refaire vivre le MIG à travers cette statue, de façon à ce que chaque motard qui puisse passer ici bah, puisse venir le voir, puisse passer un petit moment ici. Voilà, on veut que ça soit un lieu convivial aussi, de rassemblement, voilà, de ce qu'on essaiera d'ailleurs de faire tous les ans.
D'accord, donc je vois là, il y a du monde, il y avait beaucoup de motocyclistes, beaucoup de gens avec des fanions Hildeman, donc je suppose que c'était aussi ses fans et ses spectateurs qu'il soutenait dans ses courses.
C'est ça, oui.
Ce que je viens de voir, voilà.
Il a couru, ouais. Il a fait 19 ouais. fois l'Hildeman, hein, donc ouais. il était connu comme le loup blanc, c'était le français le plus rapide sur l'Hildeman, et donc... on voit ici ouais, des gens qui ont fait beaucoup, enfin des déplacements assez longs. On avait des gens qui venaient d'Irlande, d'Angleterre, de Suisse. Enfin voilà, il y a ouais. des gens qui viennent de partout.
Hein. Tu es passé dans un reportage à TF1, à 7 à 8, il y a quelques années. Bon, ça c'est mon avis personnel, le trouver ce reportage, pas top. Parce que voilà, ça c'est mon côté perso. Hein. Je préfère ce que je vois aujourd'hui et le miguet que je voyais de temps en temps.
C'est
donc,
ça.
Ça, c'est mon avis personnel.
Alors après, il y a tous ceux qui le connaissaient par les réseaux sociaux et puis il y a ceux qui le connaissaient vraiment comme nous, voilà. tous ceux qui vivaient ici.
D'accord.
Ouais, moi, c'est un ami de 30 ans et voilà. on a une autre approche que ce qu'on a pu entendre aussi parfois de sa part sur son compte. Quoi. Et nous, ce qu'on sait, c'est ce qu'il valait. Les valeurs qu'il avait, la passion telle qu'il l'avait eue, et ça depuis tout petit. Voilà, on l'a vu démarrer ses motos, les nettoyer, les réparer tout seul. Enfin, ça a été vraiment.
C'était pas un enfant gâté de la moto.
Ah,
c'était
du tout.
On va dire que c'était un motard.
Du tout.
Un motard normal qui accédait à ce statut et une vie riche.
Oui, il s'est fait une renommée seul. Il s'est fait une renommée parce que bah, déjà, il avait du talent. Hein, puisqu'il faut aussi dire, hein, quand on est capable de rouler comme ça, comme il l'a fait un peu partout dans le monde, et d'avoir aussi quelquefois parfait des bonnes places. Donc, ça veut dire qu'il avait quand même un talent. Et ça, il n'en a jamais joué. C'est-à-dire qu'il est toujours resté humble, toujours le même. Il n'a jamais changé. Y compris, il était toujours là pour donner des idées aux jeunes, les aider. Tous ceux qui venaient l'interroger, jamais. Voilà, il n'a jamais fait voir qu'il était plus haut que tout le monde. Et donc, ça, c'est vraiment ce qu'il le caractériser.
Toujours prêt à donner des conseils.
Voilà.
Et toujours humble de sa personne.
Tout à fait.
Eh bien, Michel, je te remercie pour cette interview. J'ai vu que tu étais très ému. J'ai vu. Moi, je le suis aussi. Et c'était vraiment un bon moment. Je ne regrette pas de m'être déplacé.
Bah, merci
beaucoup.
Je te
souhaite une bonne continuation à toi et à ton association. Et on essaiera de participer à tous vos événements le concernant.
Pas de souci, il y en a encore, on a plein de projets en vue. Donc, ben, merci beaucoup.
C'est moi qui te remercie, Michel.
Merci.
De la part de Kikaku et tout le club.
Merci à vous, au revoir. Off the side of the road.
Voilà, au téléphone, nous avons Jean-Michel Meunier du Vauxhall Club de France. Jean-Michel, bonjour.
Bonjour.
Alors, tu étais avec Nicolas le 30 avril dernier à Chambois pour l'inauguration de la statue de Fabrice Miguet. Oui, et tu as rencontré Morgane Gauvignon.
Oui, c'est ça, oui. Bon, Morgane, je peux résumer, c'est un gentil. Bon, c'est un jeune, il doit avoir 40 ans par rapport à moi. Il a été enlevé en site car BFG, en plus. Il a découvert le Titi très tôt avec ses parents, et quand il a vu la première fois le Titi, il avait 8 ou 9 ans, il a dit « j'irai courir là-bas ». Il n'avait aucun moyen, mais déjà tout jeune, il y pensait. Du coup, il s'est quand même donné les moyens d'y arriver, et il a essayé de faire un peu comme Mig. Donc, si on résume, il a déjà participé au Titi, il s'occupe de journées de piste avec son club, il fait des piges à Motojournal ou Motorevue. Quand il part en vacances, c'est bien sûr en sidecar. Il emmène dans ses délires quand il va un peu partout. Il emmène toute sa famille, ses enfants, sa femme, il le suit partout. D'accord. Récemment, comme c'est un petit fou, il a testé l'enduro le Touquet complètement à l'arrache. Il a fait un rallye de l'amitié au Maroc encore à l'arrache il n'y a pas longtemps. Il a aussi créé une chaîne Momo Circus où il a donné des cours de mécanique pendant le Covid, et c'était dans sa caravane au fond de son jardin, avec une fausse moustache, un béret, c'était hilarant. Et dernièrement, il a participé au Grand Prix du Cameroun, une course en pleine ville avec la circulation qui était...
Alors effectivement, on a vu quelques images de ce Grand Prix.
Voilà.
C'est pas impressionnant, c'est dingue.
Oui, donc il a voulu faire, il a été le premier Européen à aller essayer de les aider pour organiser une course. Donc là, il est passé à tout le sport il n'y a pas longtemps, incognito, parce qu'il n'était pas au courant qu'ils avaient chopé ces images sur YouTube. Et là, c'était mardi dernier, il est passé avec toute sa famille pour montrer comment il avait organisé ce Grand Prix du Cameroun. Voilà, donc c'est un personnage, Momo. Il est aussi prof. Et avec ses étudiants, par exemple, il leur demande de le surprendre. Et du coup, ils font des rapports, non pas sur des feuilles, mais sur une nappe, par exemple. Voilà, il fait des choses. Les rapports, c'est pas Monsieur Morgane Gauvignon qu'on le remercie, c'est Professeur Momo.
Jean-Michel, les plus belles chansons se sont écrites sur des nappes.
Ah oui, bien sûr. Voilà, oui.
C'était
donc là, voilà, avec tout ce
c'était
que
la
j'ai
parole,
pu dire, voilà.
les mots de Maître Nico.
Oui. Et là, on peut voir qu'en fin de compte, il est un petit peu fou, mais un gentil fou. Et c'est on pourrait dire le fils spirituel de Mig. Et quand le Mig s'est tué, il va le raconter après. Morgane a voulu faire un de ses rêves, et Mig voulait courir en Nouvelle-Zélande avec une Vauxhall, parce que c'était un fan des motos Vauxhall. Il avait fait le Titi avec. Il a même couru avec une Black Magic. Il avait mis un bol, etc., sur sa tête. Vraiment, c'était un personnage. Voilà. Donc, il a voulu rendre hommage en Nouvelle-Zélande à Mig. Et il a couru en décembre 2020, faire une course dans une course sur route qui se passait en partie dans un cimetière. Voilà l'histoire de Morgane.
Très bien.
Donc, il est vraiment lié à Mig.
Eh bien, écoute, voilà. Jean-Millet, on écoute, parce que tu avais pris du son. Hein, tu as pris du son. Tu as fait l'interview de Morgane. Hein.
Ah, oui.
Eh bien, on va écouter ça. Voilà.
D'accord.
Oui, bonjour Momo, moi c'est Jean-Mi, hein. Je ne joue pas un kick un coup, mais je suis monsieur Vauxhall, monsieur BFG du coin, et qui fait des interviews des fois, hein. Je pigiste. Donc Momo, moi, au niveau de Mig, moi c'est l'histoire de la Nouvelle-Zélande. Je connaissais Momo qui avait fait des courses, tout ça, mais son lien avec Mig, je connaissais un tout petit peu. Mais quand il a décidé de faire avec une Vauxhall la course que voulait faire Mig, eh ben, ça m'a pris au trip, donc on a suivi ça... de loin, mais on a suivi ça tous les matins, en se levant à 6h du matin pour savoir où étaient ses courses, quand il cassait, etc. Donc j'aurais bien voulu savoir, Momo, un peu, comment ça s'était déroulé, cette aventure de cette Vauxhall en Nouvelle-Zélande. Le début, comment tu as pu avoir la moto, comment tu as pu t'entraîner, si tu as pu t'entraîner, et pas beaucoup, comment elle est partie en Nouvelle-Zélande, comment s'est déroulée cette aventure. C'est l'aventure de Mig. Hein.
T'es accroché à ton slip, là? T'as 2-3 jours devant toi? Parce que ça va prendre du temps. L'histoire, elle commence... Elle commence dans le bateau qui me ramène de l'île de Man en 2018. Mig s'est tué au moment où moi je chargeais mon camion pour aller sur l'île de Man. Donc là, j'étais avec mes parents, ma femme, mes enfants, on était tous à la maison en train de charger le camion. Et là, tu te dis, qu'est-ce que tu fais là? Tu y vas ou tu décharges? On a choisi d'y aller et pendant 2 semaines, c'est ça qui m'a porté en me disant, lui il l'aurait fait, il serait allé au bout, il faut que tu ailles au bout du truc. Parce que si tu es là, c'est aussi grâce à lui, donc va au bout. Et j'ai tout donné, je crois que c'est l'année où j'ai le mieux roulé sur l'île de Man. Et en fait, tu t'engraines, tout ça, ça te rend plus fort. Mais au moment où tu remontes sur le bateau pour rentrer, tu te dis putain, c'est fini quoi. Tu reprends le boulot le lundi, Et tu te dis, merde, là, il y a un trou, il manque quelque chose, quoi. Il manque quelque chose. Et toi, c'est ce qu'est-ce qui me reste du MIG. Et ce qui me reste du MIG, c'est cet espoir que tout soit possible. Et c'est d'oser faire ces projets fous. Et quelques mois avant, ce qu'on s'appelait régulièrement avec MIG, on avait discuté, il m'avait parlé d'une course qu'il voulait faire. Son projet, c'était de faire rouler une Vauxhall sur les 5 continents. Et il avait trouvé une course sur route en Océanie, en l'occurrence en Nouvelle-Zélande, sur le Simtory Circuit. Et il était en train d'essayer de monter l'affaire pour aller faire rouler une Vauxhall là-bas. Et je me suis rappelé de ça dans le bateau, entre Douglas et Liverpool. Et je me dis, putain, bah, je vais faire ça. Je vais faire la course qu'il a pas pu faire. Je vais continuer son truc. Et surtout, je vais essayer de raconter l'histoire. Parce que c'est ce qui nous laisse, en fait. C'est un blaireau, c'est un gars qui n'est pas connu, qui va au travail comme tout le monde toute la semaine, et qui arrive à faire des trucs de malade. Et je vais y aller, et je vais la raconter, parce que je veux que les gens s'en rappellent, et que eux aussi, ils ont envie de faire des trucs de fou, quoi. Et puis, je reprends le boulot. Et puis, le projet me travaille la tête, me travaille l'esprit. Et sauf que j'avais rien, toi. Je voulais revendre une de mes motos de course pour acheter une Vauxhall. On était en 2019. Je voulais essayer de trouver un plan pour aller en Nouvelle-Zélande, puis j'avais rien du tout. Et comme j'aime pas parler de mes projets tant que je suis pas sûr de les réaliser, je cherchais dans mon petit coin, et mon petit coin il est pas bien grand, donc je trouvais pas grand chose. Et puis j'en ai parlé à un copain, à Maxence, que je remercierai jamais assez, qui m'a dit je savais qu'il avait roulé Vauxhall à une époque, et puis il y a peut-être une connexion et tout, c'est un gars qui me file des coups de main pour l'île de Man. Et il me dit, écoute, pas de soucis, je vais appeler un copain, tout ça, il n'y a pas de problème. Ok, donc j'envoie ça d'un côté, et puis de l'autre, je me dis, faut que je trouve comment aller en Nouvelle-Zélande. Donc je tape Motorcycle New Zealand Forum, je tombe sur un forum qui s'appelle Kiwi Biker, je m'inscris dessus, je me présente, salut les gars, moi c'est Momo, j'ai 32 ans, je vais faire rouler une Vauxhall en Nouvelle-Zélande, comment qu'on fait ? Je reçois quelques messages de retour, on sait pas trop, c'est quelle course que tu veux faire. Et il y a un gars qui me répond, il me dit, moi je suis allé en France il y a 3 ans et c'est tous des connards, j'étais super mal accueilli. Je dis, merde. Alors j'essaie d'expliquer un petit peu le truc, toi. Et en fait, le gars, on commence à échanger vraiment bien tous les deux. Et en fait, son message, c'était pour me tester. Et le gars me dit, il s'appelle Dave, il me dit, écoute, en fait, moi je suis mécano pour une écurie de course et tous les ans, on fait venir un conteneur de pièces et de motos d'Angleterre. Donc si tu veux, on met ta moto dedans, sachant que j'ai toujours pas de moto à ce moment-là, et on te l'amène en Nouvelle-Zélande. Je dis, ok, super et tout, est-ce que tu peux me donner le prix de ce truc-là? Et il me dit, ouais, a box of beer in my fridge, un pack de bière dans mon frigo. Je dis, putain, là, il y a moyen de trouver un truc d'enfer. Et pendant ce temps-là, Maxence, il appelle un fou, mais un fou de chez fou, hein, Emmanuel Arnoux, mon petit Manouille, si tu m'entends, je t'embrasse. Qui est spécialiste Vauxhall, qui a un paquet de Vauxhall démontés chez lui, dont une qui prend la poussière depuis 10 ans, qui est le deuxième proto qui a été monté par l'usine Vauxhall. Et en fait, il a racheté cette moto au Vauxhall Club de France, il a roulé une fois avec, puis après il l'a entreposée en se disant qu'il la referait propre un jour. Et puis il n'a pas eu le temps de le faire parce que il lui faudrait des journées de 48 heures aussi, à Manu, c'est compliqué. Et en fait, Maxence me dit, c'est bon, Manu, il te prête le proto Vauxhall qu'il a et tout. Je dis, attends, Manu, il a compris que je l'emmenais à l'autre bout du monde, je sais pas trop où, je sais pas trop pourquoi faire, et que peut-être il la reverra jamais de sa vie. Ouais, il s'en fout, il était copain avec Mig et tout, il est habitué aux trucs un peu bizarres, donc pas de problème, il te la prête. Je dis, écoute, passe-moi son numéro de téléphone, qu'on discute, quoi, que j'y explique vraiment dans quoi il s'en mange. J'essaie de l'appeler pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, pendant ce temps-là, je continue de discuter avec le Néo-Zélandais. Oui, pas de souci, on t'emmène ta moto, et la moto, je ne sais pas. Il me rappelle, j'étais au boulot, il me rappelle au mois de février. J'ai tout laissé, l'ordinateur en plan, les collègues de travail, j'ai sauté sur le téléphone. Excuse-moi, j'ai pas pu te rappeler avant. La Vauxhall, je te la prête, faut tout refaire. Mais j'y vais avec les copains du club et tout, on va trouver des trucs pour la refaire. La moto, je te la refais nickel, je te la prête, tu pars avec, tu fais la course, moi je serai content. Et là, des gens qui m'ont prêté des motos, déjà, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais alors qu'ils m'ont prêté des motos pour que je lui fasse faire 13 000 km et une course sur route, ça c'est jamais arrivé, quoi. Sauf que Manu, entre-temps, il tombe malade. Et il chope une saloperie, il est complètement affaibli. Et du coup, il m'avait dit, la moto serait prête pour juin. Et puis, juin, elle n'est pas prête, parce qu'il ne peut pas. Juillet, elle n'est pas prête, parce qu'il ne peut pas. Il doit me l'amener au rallye des volcans au mois d'août. Et puis, en fait, la fibre, elle n'avait pas fini de sécher. Donc, il me dit, le week-end prochain. Puis, je dis, le week-end prochain, moi, je serai au Vigan pour faire une course avec une moto ancienne. Donc, on peut se rejoindre là-bas. Il me dit, bah, pas de souci, moi je serai au Vigan, sachant qu'il est complètement à l'est et qu'il faut aller complètement à l'ouest. Il traverse toute la France, il m'amène la moto. Et puis au Vigan, en fait, il y avait aussi une course de Pro Twin. Donc je lui dis, bah, du Pro Twin, il y aurait peut-être moyen d'essayer la Vauxhall, parce qu'après elle partait en conteneur, donc j'allais pas rouler sur la moto.
Ouais, c'était idéal. Quoi. Ouais.
C'était un timing parfait. Ah, oui. Là. Jamais roulé au Vigan de ma vie, jamais roulé sur une Vauxhall de ma vie. Donc ça sentait bon encore l'histoire là. Et puis la patronne du Pro Twin a eu la gentillesse de nous laisser une place pour qu'on puisse rouler. J'ai découvert Manu la moto ce week-end-là. Les deux ont été une rencontre. Mm-hmm. Parce que franchement, rouler avec la Vauxhall, c'était exceptionnel. Manu, c'est un mec en or. Mais
ah, c'est un personnage. Ouais, ouais.
Il est fabuleux. Il a l'émerveillement d'un enfant en permanence. Mais toi, on est dans des conditions où on se découvre, donc c'est toujours magique, tu sais, c'est l'amour au début, hein, c'est vachement bien. Puis après, tu te rends compte qu'elles ont deux, trois défauts.
Ça, mais c'était un pilote de rallye, hein, donc il savait un peu dans quoi s'embarquer.
C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Mais toi, tu sais pas.
Et moi, je savais.
Ouais. Là, du coup, on fait le week-end ensemble, mm-hmm. On a deux, trois problèmes techniques. Il ramène la moto pour la réparer, on me la ramène pour qu'elle parte en conteneur, dans des conditions, ça mériterait un chapitre aussi encore complet. Et on se retrouve en fait à partir en Nouvelle-Zélande, mais pas pour faire une course, mais pour en faire trois. Parce que mon contact néo-zélandais, il me dit, en fait, ce qu'on va faire, c'est que le conteneur dans lequel il y aura ta moto, il y a d'autres motos de Français qui vont être là aussi, on va le déplacer de circuit en circuit, parce qu'on fait un championnat qui est sur trois courses, donc on te le déplace avec la moto dedans, et puis ben, c'est bon, quoi. Et non, mais les gars, moi, j'ai prévu 15 jours de congé pour visiter un peu en famille et faire la course. J'ai pas prévu un mois, et ça, j'ai pas assez d'argent. Il m'a dit, non, mais on t'invite. Ah bon ?
Les néo-zélandais, voilà comment ils sont. Ouais.
C'est ça.
Ils invitent.
Du coup, on a compté nos congés avec ma femme, on a recompté nos sous, puis on est parti un mois. Et on arrive là-bas en Nouvelle-Zélande, et on va passer un mois avec Manu.
Manu, ouais.
Et ce qu'il y a, c'est un mois avec moi. Moi, je suis un mec fabuleux, tu vois, sensationnel et tout, donc ça se passe forcément bien. Mais avec mes deux enfants, qui sont petits. Comment il va les supporter, comment ma femme va nous supporter tous les deux avec Manu à nous faire nos gamins. On a passé un mois de folie à courir après la Nouvelle-Zélande et c'était autant du voyage que de la moto, que de l'amitié. C'était une aventure humaine qui était extraordinaire. On est parti avec rien, pas de moto, pas de contact en Nouvelle-Zélande, un budget ultra serré. Le Vauxhall Club de France nous a soutenus pour qu'on aille au bout de notre rêve et au bout de notre délire. Et on se retrouve en Nouvelle-Zélande, on fait la première course, qui se passe bien, on est heureux. On arrive sur la deuxième course, on a profité pour visiter un peu entre les deux circuits. Et puis la deuxième course, les essais démarrent bien. Et puis au bout d'un moment, la Vauxhall, elle se met à faire un bruit bizarre. Puis elle marche de moins en moins bien, de moins en moins bien, de moins en moins bien. Et puis elle casse. Il fait nuit, on démonte, et on se rend compte qu'en fait, y a une culasse qui est descendue dans le cylindre. Une soupape qui est descendue dans le cylindre, qu'elle a mangé la culasse, qu'elle a mangé le cylindre, qu'elle a mangé le piston. Et la course que Migre avait de faire, c'était la dernière de ces trois épreuves. Donc on était à une course d'atteindre son rêve. Et là, tu te dis, merde, je suis à l'autre bout du monde. Je suis à trois poils de cul d'y arriver. Et je prends le moteur dans la gueule, là. Mais qu'est-ce que... Non, c'est pas possible. C'est pas possible. On n'a pas fait tout ce chemin. On n'a pas autant galéré pour préparer, pour que ça s'arrête maintenant. Et en fait, c'est parti très très vite. Moi, mon voisin de bureau, Hervé, quand j'y avais raconté mes conneries que je préparais, il m'a dit, écoute Momo, si tu viens en Nouvelle-Zélande, moi je viens te voir avec ma femme. Et il l'a fait. Il avait pris un billet d'avion, on devait se retrouver pour la dernière course, et au moment où on pète le moteur, il n'est pas parti de France. Donc là, je me dis, il y a un transporteur potentiel. Je demande à Manu, est-ce que tu sais où on peut trouver les pièces? Oh ben oui, il y en a chez le NES et tout, il y en a là-bas, il y a ça, là, ça. J'ai dit, écoute, fais la liste, on va se démerder. Pour les faire rapatrier, donc il fait appel à la Vaux Centraide, qui marche du feu de Dieu, il récupère toutes les pièces, NES. Mes parents, parce qu'on est en pleine période gilet jaune, donc j'avais peur que le colis n'arrive pas, mes parents prennent le sidecar, ils descendent dans le Puy-de-Dôme pour aller chercher tout ça, ils le remontent, ils le filent à mon pote Hervé, donc des trucs légers, hein, culasse complète,
cylindre
piston, c'est ça. Mon pote Hervé, il enlève ses slips de ses valises, et puis ceux de sa femme aussi, ça l'arrangeait bien. Et il remplace tout ça par 12 kilos de ferraille. Comme on a peur que ça passe pas la douane, on retraverse la Nouvelle-Zélande pour l'accueillir à l'aéroport. Et on va récupérer les pièces. La douane, ça se passe impeccable. Et on redescend, parce qu'en fait, on s'est un peu fait planter, parce que le gars qui m'avait promis plein de trucs, il n'était pas là. Il s'était sauvé avec la caisse, entre-temps, du team. Et on se retrouve en fait chez un mécanicien qui avait fait la course de Wanganui des années auparavant, qui nous laisse son atelier. Et on est le 23 décembre. La course a lieu le 26.
C'était le 26, oui.
On récupère l'ensemble. Le 24, on se met sur la moto. Et on remonte la moto, petit à petit. Alors, ce qui est bien, c'est que Manu, il n'a pas besoin de revue technique. Les coupes de serrage...
Il connaît par cœur.
Tout par cœur. Moi, j'essaie d'aider comme je peux. Et puis, il y a un moment entre deux cafés avec Joe, une caresse au chien qui se balade dans l'atelier. Bah, il y a un moment où la Voxon redémarre, quoi. Et là, tu te dis, putain, bah, ça, c'est une histoire à la MIG. Parce que y a un moment où le truc, il est parti de travers complet. Et puis, bah, peut-être que c'est en train de le faire. Peut-être
oui, c'est en train de le faire, ça réussit quand même. Oui.
C'est ça. Mmh. Et on fête Noël, du coup, sur place, le 25. Puis le 26, c'est la course. Et la course, tu voudrais faire la même, tu n'y croirais pas. Donc tu fais le tour du quartier, tu fais le tour du cimetière, enfin tu coupes le cimetière au milieu. Donc c'est assez particulier.
Oui, parce que c'est un circuit dans un cimetière. Oui.
C'est ça, ça s'appelle le Cemetery Circuit, parce qu'il y a un moment, tu as une ligne droite où tu passes à travers le cimetière. Et en fait, la Voxon, on a des soucis dessus, elle coupe, en fait elle s'arrête en plein milieu de la ligne droite, donc c'est dangereux pour moi puis pour les autres pilotes. On essaie de bidouiller des trucs, et puis en fait, il y a, je vais dire une bêtise, il y a 8 tours d'essai au total, donc tu as à peine le temps de retenir le truc. Et ça part pour la première course. Ils donnent le départ et tout de suite on prend un drapeau rouge, une grosse chute. Donc ils arrêtent tout. Ils nous font remettre en grille. On repart. Et là on fait 2 tours et demi. Nouveau drapeau rouge. Parce qu'il y a une moto qui a pris feu dans les bottes de paille. Donc ça commence à flamber de partout. Du coup, la première manche, ils l'annulent, quoi. Et là tu te dis, mince, je suis venu là. On a réparé et tout. Enfin, il reste plus qu'une seule manche pour que ça puisse fonctionner, pour que ça puisse se faire, pour qu'on aille au bout du rêve du MIG, de cette course qu'il voulait faire. Et on se rend compte au bout d'un moment que le paddock se vide, et c'est le départ de notre course, sauf qu'on n'est pas au courant, parce que les haut-parleurs, ils n'arrivent pas jusqu'à nous. Donc je m'habille en catastrophe, je saute sur la moto, et coup de bol, il y a un mec qui est tombé en panne dans le tour de formation. Donc en fait, le safety car, il n'est pas encore arrivé, il attend derrière, moi je double tout le monde, et je vais mettre sur la grille de départ, et je suis à peine sur la grille de départ que l'autre mec arrive, et là, poum, ça part, c'est le départ de la course. Alors t'es plus dans le stress en fait, t'es dans l'euphorie du truc. Tu fais la course, je sais même pas combien de tours il y avait, je sais pas combien, à quelle place j'étais. J'étais partagé entre faire la course et puis emmener cette moto au bout, parce que c'était notre dernière chance d'aller au bout du rêve du MIG. Et puis là j'en ai les poils qui montent, mais t'arrives dans ce dernier virage à gauche là, qui remonte, puis après qui descend comme ça. Et là tu sais que là il y a le drapeau à damier, ben, le virage à gauche. Quand tu le prends, tu vois, t'as un truc qui est en train de monter, parce que tu sais qu'il reste 200 mètres. Et puis quand tu passes et puis que t'as le damier, tu dis, putain, on a réussi. Tous les copains qui sont derrière, qui poussent, on a réussi. Des rêves à la MIG, c'est possible. Ce sera fou, ce sera épique, ce sera dur. Tu vas pas dormir beaucoup. Tu vas dormir à 4 sur le même matelas avec les deux enfants dans le petit van que t'as loué. Mais putain... Tu l'as fait et tu peux ramener une histoire qui parle d'amitié, qui parle de coup de bol, qui parle de gens qui sont généreux, de tout ce qu'a fait toute la carrière du MIG et toutes les histoires du MIG, de tous ces gens qui sont venus l'aider, qui ont vécu des choses extraordinaires à travers ce qu'il faisait ou avec lui en venant directement sur les courses. Et moi, je voulais raconter cette histoire-là parce que c'est ce qui me reste de lui, d'avoir le droit de rêver à des projets fous. Et d'avoir le droit d'essayer. On réussira pas tout, mais ça, on l'a fait.
Merci Morgan.
Hello. that way, and I'm telling you that's the beast. That's funky right there. You know why I got y'all attention? I want y'all to know that everything ain't gonna go the way you want it in life. Sometimes it just be that way.
Le rendez-vous de la moto tous les dimanches à partir de 11h sur Radio Campus Lille. Et tout de suite, on retrouve Fabrice Miguet dans une séquence émotion enregistrée en 2017 dans les studios de la radio la plus libre de France.
Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Alors je tenais à dire, c'est Renaud du Café Romain qui vous connaissez. Et donc c'est Renaud qui t'a invité à venir aujourd'hui et nous sommes très heureux de t'accueillir dans cette émission. D'ailleurs, tu connais aussi Guy, parce que vous êtes aussi rencontrés. Au Titi, sur l'île de Maine.
Mais à l'apéritif des Français, on s'est rencontrés d'abord.
Eh ben oui, ça, tu m'étonnes.
Et Fabrice, c'est notre Guy Martin à nous. Ça fait, je crois, 15 fois que tu fais le truc.
Oui, 15 fois. 15 fois, impressionnant quand même. Et ça fait combien de temps, tu disais, ça fait 15 ans que tu fais des courses sur route, c'est ça?
Oui, voilà, ouais.
Qu'est-ce que t'as fait comme course sur route?
Alors depuis 99 que j'ai découvert le TT et la course sur route, c'était ma première course sur route. En 98 j'avais fait championnat de France de course de côte. C'est là que j'ai vu aussi, j'ai rencontré les courses sur route, on va dire. Mais bon, c'est pas spécialement comparable par rapport à des courses sur route irlandaises. Et donc maintenant j'essaye de faire le plus possible ces courses-là que voilà, j'aime bien.
T'as fait quoi comme type de course sur route déjà?
Je dirais donc 15 TT. Il y a deux grandes courses sur route en Irlande qui sont la Nord-Ouest 200 et le Grand Prix d'Ulster aussi, qui sont des courses là différentes un petit peu parce que là on va partir en paquet. Alors l'île de Man, c'est la seule course où on compare un par un toutes les 10 secondes. Et après les courses sur route, on part en paquet, en deux ou trois paquets aussi pour des raisons de sécurité suivant la grandeur de la voie, quoi, la largeur de la voie. Et après, je cours aussi en République tchèque aussi, qui ont une grosse mentalité de course sur route, chez nos amis belges et voisins là actuellement aussi, où qu'ils ont un bon championnat aussi de course sur route aussi. Et puis après, il y en a une en Hollande, à Angelo, qui fait partie du petit championnat qui s'appelle IRRC, International Road Race Championships, Il y a deux courses en Allemagne, une course en Hollande, une course en Belgique, une course en République tchèque. Et cette année aussi, si je peux le faire aussi avec le budget, parce qu'il y a le budget aussi, il y a un retour d'une course à Imatra en Finlande, sur l'ancien circuit, international de Grand Prix.
Justement, en parlant de budget, ça a un coût donc, de participer à ce type de course.
Oui, ça a un coût, mais ça reste quand même...
Abordable.
Oui, abordable, parce que en course sur route, les pneus s'usent moins, on a moins besoin d'avoir un pneu neuf qu'en course sur circuit, où là, il faut vraiment avoir le top en pneu. Ça va être plutôt la trajectoire, la façon de piloter.
Mais ta moto est préparée quand même pour participer. Ça demande quand même un équipement spécifique.
Et puis maintenant, les motos aussi, les 1000 sont quand même assez chères, mais bon, ça reste quand même des bonnes motos. On les a presque d'origine. Après, en course sur route aussi, on retrouve, mais bon, là, ça se perd un petit peu, comme je vous disais tout à l'heure. Avant, on restait aussi avec des pilotes, je dirais à l'ancienne, qui n'avait pas trop de budget et qui restait avec des motos proches de l'origine. Et nous, on essaye de mettre un peu de préparation dedans, tout ça. Et puis, hop, le mec, il va plus vite que toi. Tu te dis là, là, c'est au fait, tu t'aperçois que c'est le pilotage pur.
En parlant de pilotage, t'as pas peur de rouler comme un fou sur une route ouverte comme ça ?
Non. C'est sûr qu'avec les motos de maintenant, on est souvent à 320 km/h. Les premiers OTT doivent faire des moyennes de 212 ou 213 chronos, donc ce qui fait une moyenne de 220-230 compteurs.
En roulant à côté des trottoirs, des murets,
des
maisons.
On se laisse une marge de sécurité, bien sûr, et ce qu'on fait, on sait le faire. Bon,
qu'il y a au moins un mort chaque année au Titi.
Malheureusement.
Et comment tu fais pour te repérer, par exemple, dans les virages? Parce que bon, il y a 60 km quand même.
Ouais, il y a 260 courbes, on va dire.
Ouais. Alors comment tu te repères? Enfin bon, il y a l'entraînement.
Ça dure 15 jours le TT. Il y a la première semaine où c'est des entraînements tous les soirs, où tu fais à peu près entre 3 et 4 tours. Alors ça fait 240 km. Et puis tu as la deuxième semaine où tu as les courses, une journée sur deux. Et donc un TT, on va faire à peu près 2000 km à peu près grosso modo de roulage. Et évidemment, faut laisser le temps pour connaître le circuit, Alors c'est pareil, le danger c'est toi qui le fais. Si tu veux prendre des risques, tu vas prendre des risques. Sinon, si tu roules à ta main sur ce que tu sais faire, tu prends beaucoup moins de risques.
Mais c'est pas rouler pépère, hein, parce que bon, il faut quand même allumer.
Hyper vite.
Mais il y a eu un accident mortel, je crois, l'année dernière ou l'année d'avant, où c'était un animal, un lapin, ou je sais plus, un truc comme ça, qui avait traversé au moment où le pilote.
Sidecar. Et après, la course, s'il y a un accident, la course s'arrête. Hein, ou bien quand il pleut, par exemple, aussi. Hein.
On n'a pas le droit depuis 2006 ou 2007. Dès qu'ils tombent de l'eau, ils arrêtent la course.
Par exemple, tu retournes cette année alors,
Alors on fait une demande d'inscription, on n'est pas toujours sûr. Bon, en principe, je vais être pris, mais on fait une demande d'inscription et on reçoit un mois et demi avant le TT.
Et ensuite, tu as piloté plusieurs machines, dont une Vauxhall aussi, avec le drapeau bleu-blanc-rouge, je me rappelle. Ouais. Alors, cette machine, elle était performante quand même.
Alors, la Vauxhall, c'est un de mes meilleurs souvenirs aussi au TT. C'était au niveau châssis, c'est une très bonne moto, la Café Racer. J'ai roulé avec une Café Racer, une Black Magic. Et cette année, j'ai fait Pice Peak aussi aux États-Unis, la course avec une Café Racer aussi. Ouais. L'année dernière, bien sûr. Ouais. Oui, quand je dis cette année, c'est l'année passée.
Parce qu'il y a un nordiste qui était là-bas, qui s'appelle Christophe.
Oui, Christophe Marquis. Ouais.
Tu l'as vu là-bas.
Oui, je l'ai rencontré. On était dans le même hôtel.
Il était en catégorie vintage.
Oui, voilà. C'est une 650 XS.
Donc tu étais à touche à tout alors.
Tout ce qui est en course sur route, depuis 3 ans, Pice Peak est entièrement goudronné, donc je me suis dit je vais essayer ça. Bon après c'est bien particulier Pice Peak, mais ça vaut pas un TT par contre. Hein. TT on fait 2000 km à 200 km/h de moyenne et là c'est que du plaisir.
Et chaque année aussi, par exemple, certains touristes, pilotes, motards français viennent te voir et tu expliques un peu tous les virages. C'est de bonheur aussi. Hein,
on parlait de budget, donc j'essaye de trouver un petit peu de budget. Et donc j'ai organisé des petites balades le matin à partir de 7h, parce que bon, pour qu'il n'y ait pas trop de circulation non plus. Et donc on fait le tour du circuit à vitesse raisonnable, bien sûr. Hein. Et je m'arrête à une quinzaine de virages et j'explique un peu le ressenti, la particularité du virage, la particularité de cette course-là aussi, parce que c'est une course qui nous travaille quand même beaucoup. Hein.
D'accord. L'année passée, il y a eu un pilote français qui s'est tué
malheureusement, à l'entraînement.
Ouais.
Le deuxième ou troisième jour, ouais, Franck. Ouais.
Parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de Français qui se pointent sur la ligne de départ.
On est 3-4. Il y a Xavier Denis et Timothée Monod, un Breton, qui font le TT depuis 3-4 ans. J'ai été aussi assez souvent tout seul aussi pendant 3-4 ans ou 2-3 ans, je ne me rappelle plus. Et avant, il y avait... c'est compliqué depuis 5-6 ans, que là, il faut faire 6 courses dans l'année, il faut envoyer une demande d'inscription, il regarde le palmarès du pilote et tout. Avant, c'était beaucoup plus simple l'accès à cette course-là, et donc il y avait plus d'inscrits aussi français, quoi.
Ouais, il fallait quand même un peu avoir la main avant d'aller au TT, quand même. Le gars qui n'a jamais roulé, mais qui fait du circuit en France, et puis...
Ouais,
c'est presque impossible.
Oui, mais alors justement, il y a une grosse différence entre le circuit et les courses sur route. Par exemple, Guillaume Dietrich, qui était venu il y a 3 ans, qui a été champion de France en superbike, qui a gagné les 24 heures du Mans, qui est venu faire le TT, et ne s'est pas qualifié. C'est un pilote qui est pourtant chevronné, qui sait faire du circuit, qui est un très bon pilote, physique et tout. Et au TT, c'est en course sur route. Et il a été surpris aussi des vitesses atteintes qu'on peut prendre au TT. On prend 3-20 assez facilement et on est souvent sur 60 km, on est toujours à 250, 260, 280.
avons Xavier Bonny qui est directeur éditorial et événementiel des éditions LVA. Xavier, bonjour.
Bonjour.
Alors, on va parler des coupes motolégendes hein, qui auront lieu le 28 et 29 mai. Mais j'aimerais que tu nous dises un petit peu ce que tu fais, ton travail aux éditions LVA.
Alors, aux éditions LVA, donc, je suis effectivement directeur éditorial et événementiel. Donc, ce groupe de presse, les éditions LVA, existe depuis 1976. Et nous avons aujourd'hui 8 revues. Donc dédié à l'auto classique, la moto classique est l'objet de collection, le vintage, la brocante. Donc ça c'est notre pôle presse et on a également un pôle événementiel, donc en lien avec nos activités, qui sont donc les coupes motolégendes, notre prochaine manifestation au mois de mai au circuit de Dijon. Et ensuite on a Automédon au Bourget, donc dédié à la voiture classique, et on a le salon motolégende au parc floral de Paris-Vincennes qui clôt la saison des manipos, en fait, de chaque année.
Très bien. On va parler des ces coupes motolégendes hein, qui auront lieu, donc, je rappelle, le 28 et 29 mai. C'est le grand retour, hein, faire des coupes motolégendes.
Ah ouais, c'est le grand retour. Ouais. On est impatients, on trépigne depuis, en fait, la dernière édition, c'était 2019. Malheureusement, on n'a pas pu les faire en 2020-2021. On n'a pas eu les autorisations ou on était en confinement. Bref, ouais, là, c'est le grand retour de nos 1300 pilotes sur le circuit pendant 2 jours.
Alors 1300 pilotes, 19 heures de piste, 12 ouais. catégories, 2 jours d'animation.
Ouais, bah c'est vraiment, les coupes motolégendes, c'est un rassemblement, c'est un spectacle. C'est surtout pas une compétition. Alors bien sûr, tous les pilotes, on a des pilotes chevronnés, hein, des champions du monde qui viennent. Bien évidemment, ils peuvent se tirer la bourre sur la piste, mais ils sont avant tout plaisir. Voilà, c'est vraiment des rencontres. Chaque catégorie, on a 12 catégories de motos pour que tout le monde prenne plaisir ensemble sur la piste. C'est un show, c'est une ronde infernale pendant 2 jours avec le sourire et la banane pour tout le monde. C'est vraiment un vrai beau spectacle.
Alors pour ceux qui connaissent pas les coupes motolégendes, c'est des motos classiques, motos anciennes.
Ouais, tout à fait. Ouais. On est donc en fait, ce sont des motos qui vont jusqu'à l'année 1997. Voilà. Donc les pionnières, hein, même début du 20e. Et on les regroupe par catégorie. Alors on a des cafés racers, hein, bien sûr. Donc ça, ce sont des motos préparées. Mais on a également des motos d'endurance, donc pilotées pour les 24 heures du Mans, pour le Bol d'Or. On a des motos de Grand Prix. Bien évidemment, ça, ce sont les reines de la piste. Mais on a aussi des sac cars qui viennent. On a des motos également, les pionnières de la première moitié du XXe siècle. Voilà, donc qui ont un rôle aussi déterminant dans l'explication du patrimoine, puisque nous, c'est ça qu'on aime aussi, c'est montrer un patrimoine. C'est pas seulement des motos qui tournent sur la piste, c'est beaucoup d'échanges. On pourrait revenir sur nos clubs, nos bourses, nos moments en fait où on échange entre les pilotes et le grand public. Voilà. Donc, et on a tous les types de motos et on a même un petit circuit. Donc sur le circuit de Dijon, il y a un circuit de kart qui nous sert de petit circuit et là qui est réservé aux petites cylindrées, donc jusqu'à 50 cm3, donc des cyclos traditionnels jusqu'aux cyclos préparés pour le sport. Avec même le challenge Honda ou des clubs qui viennent se réunir. Donc on a également une activité sur les petites cylindriques pour que tous les deux roues en fait soient représentées et que tous les passionnés de deux roues prennent plaisir à venir pendant 2 jours.
Oui, parce que j'ai vu que cette année, Cocorico, cette année, les coupes motolégendes accueillent des pilotes français qui se sont illustrés en petites cylindrées en championnat de France.
Ouais, voilà.
Et en championnat du monde aussi.
Exactement, ouais. On a tous les ans, on a des habitués en fait qui viennent régulièrement sur la piste, que ça soit pour toutes les cylindrées. On a Jean-Marc Taureau notamment. On a Bernard Mingret. Alors ça parle pas forcément aux néophytes, au grand public, mais en fait c'est comme Franck Gross, ces gens-là ont participé à la renommée du sport mécanique en France ils aiment se retrouver et surtout ils aiment partager leur passion et expliquer leur passion au grand public parce que ce sont des vrais pilotes. C'est pas parce qu'on a des petites cylindriques qu'on ne s'amuse pas sur la piste. Bien au contraire, l'ambiance est toujours en dehors et sur la piste, mais vraiment super conviviale aux coupes. Et ce sont des gens qui viennent et qui qui veulent partager leur passion, et c'est vraiment très agréable.
Oui. Oui, et en plus, bon, c'est convivial, hein. Le public peut se balader sur la petite laine et on peut aller regarder les machines, discuter aussi avec les pilotes, forcément. Ouais. On peut faire des photos des machines, des pilotes également.
Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est que le public soit au plus près de ces machines. Donc, pour certaines, ont été championnes du monde, hein, de Grand Prix, et de pilotes également, puisque là, cette année, on accueille Agostini, qui est le pilote Grand Prix le plus titré au monde. Il vient avec Lee Kinelli également. Donc on a des grands noms qui seront au rendez-vous cette année. Et ils viennent, le public peut venir, on ouvre la pit lane. Donc ils peuvent discuter avec les pilotes, regarder les motos au plus près, photographier. On a des séances de dédicaces aussi des pilotes. Donc on peut les approcher au plus près pour parler, prendre un temps et discuter avec eux. On peut les rencontrer du côté des paddocks, parce que ça se balade aussi dans tout le circuit. Puisque, en fait, les coupes Moto Légende annexent tout le circuit de Dijon. Voilà, on a toute une partie qui est réservée aux clubs qui viennent camper pendant 2 jours. On a les pilotes qui sont sur place. On a une grande bourse d'échange également. On a des partenaires, on a des marques moto qui viennent. Voilà, donc tout ça, c'est un grand ensemble, avec en bruit de fond toutes ces motos qui tournent. Et le public, il a accès à tout le circuit. Et ça, c'est, je pense, c'est ce qui fait aussi la fraîcheur de cette manifestation.
Vous ne regrettez pas le circuit de Montlhéry, finalement?
Ah, c'était autre chose. Il n'y a pas de regret à avoir. En fait, le circuit Montlhéry a ses avantages. Voilà, on y était très bien, puisqu'effectivement, pendant un certain temps, on a commencé au circuit de l'INAS Montlhéry, et ensuite on est parti sur Dijon. Voilà, Dijon offrait aussi la possibilité d'accueillir plus de pilotes, d'accueillir plus de séries. Voilà, il y avait d'autres avantages. C'était aussi une période où le circuit Linas Montlhéry, c'était avant qu'il soit refait, en fait, hein, puisqu'il était en travaux. Donc c'était toute une époque, et c'est ce qu'a écrit aussi la grande histoire des coupes Moto Légende. Il faut savoir qu'on a énormément de personnes, de passionnés, qui nous suivent depuis Linas, qui n'ont jamais manqué une édition, parce qu'ils savent qu'à chaque fois, ils vont avoir des frissons, ils vont rencontrer des grands pilotes, et ça va être un moment... Voilà, une pause un petit peu exceptionnelle dans l'année.
Oui, on n'est pas au Grand Prix de France où là on est un peu, comment dire, barricadé, on est bloqué.
Voilà.
Hein.
Non, là on peut vraiment aller partout.
Oui.
Voilà, sauf sur la piste, bien évidemment.
Sauf sur la piste, sauf si vous avez des motos, voilà. Oui, j'ai vu aussi qu'il y avait le World Classic Racing Bike. Le ouais. WCRB, donc oui. C'est un groupe d'amis de pilotes et collectionneurs qui ont fondé donc le World Classic Racing Bike pour restaurer et sauvegarder le patrimoine des motos originales de GP.
Voilà. Ouais. Et c'est ça, en fait, aussi l'esprit des coupes, c'est-à-dire qu'on invite toujours également des gens qui font très attention au patrimoine et qui veulent le faire grandir, le présenter au public, et qu'il y ait un savoir-faire dans ce monde sportif de la moto que l'on ne doit pas perdre aujourd'hui avec l'électronique ou autre. Et donc ce WCRB, effectivement, ils ont un box, ils ont même 2 box, donc on pourra aller voir ces motos, on pourra aller voir ces pilotes. Donc ils vont présenter des motos de collection originale de Grand Prix, d'endurance, de superbike. Voilà, donc et ils prêteront des motos. Donc ces motos vont rouler. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ces motos qui ont gagné des Grands Prix, qui ont gagné des Bols d'Or, qui ont gagné des 24 Heures du Mans, là elles vont rouler. Ce sont les mêmes. Alors bien sûr restaurées, bien sûr remises en état. On ne monte pas sur de telles bêtes sauvages sans qu'il y ait une remise en état sérieuse, parce qu'on fait aussi très attention à la sécurité. Mais voilà, donc là, les motos, par exemple, elles vont équiper Carlos Lavado avec la Yamaha TZ250 de 91, ou Lucky Nelly avec la Honda Cher CRS 500 de 83. Et ça, ces bêtes-là, on va pouvoir les voir tourner. Et c'est pour ça qu'on trépigne, en fait. On a vraiment hâte de retrouver tous ces pilotes et toutes ces machines.
Très bien. Autour aussi, il y a aussi la brocante. Hein. On peut acheter des pièces qui nous manquent pour restaurer les machines, éventuellement.
Exactement. Voilà, c'est ça, c'est tout ce mélange, hein, de l'équipement, des accessoires, même des motos. On a des venteurs de motos d'occasion ou de motos classiques qui viennent. C'est vraiment un esprit festif global, on va dire. Voilà. Et donc c'est pas seulement comme je le dis de voir tourner des motos. Il y a vraiment une vie autour pour que le passionné en ait plein les yeux.
Très bien, et si on vient sur le week-end, hein, si on vient d'assez loin et on veut rester 2 jours, hein, y a moyen de, si on vient pour le camping, il y a moyen de planter la tente, hein, autour du circuit.
Alors, on peut pas forcément. Alors, il y a, faut visiter notre site, notre site internet des Coupes Moto Légende, parce qu'on donne toutes les informations pratiques exactement et les lieux d'hébergement, que ça soit des campings autour, des hôtels, des voilà. Donc il y a pas de souci en fait. On trouve toujours à dormir, à poser son van, etc. Autour de proche du circuit, et c'est ça aussi qui est intéressant, quoi. Et donc un billet, effectivement, donc le billet est à 25 €, mais il est valable pour les deux jours. Voilà, donc
alors ça, c'est 25 €, oui, pour les deux jours. Alors soit c'est un tarif soit pour le samedi ou le dimanche.
Voilà, c'est un tarif unique. Donc voilà. Soit on peut venir que le samedi, voilà, donc on a ce tarif-là, mais il peut permettre également de venir sur les deux jours. Donc on offre cette possibilité-là aussi aux gens de passer un week-end dans cette superbe région, quoi, parce qu'en plus, c'est une région à moto. Les routes sont faites pour des balades à moto, et voilà, donc c'est un peu comme partout en France, hein,
mais là, plus particulièrement, oui. Très bien. Donc, horaire d'ouverture de 8h30 à 19h.
Ouais, 8h30, 19h, même si on ouvre les grilles un petit peu avant pour ceux qui ont acheté des billets en pré-vente. Ils font pas la queue aux caisses, ou ils ont déjà leur billet en main, donc effectivement l'accès sera plus rapide pour eux, mais effectivement c'est 8h30, 19h non-stop, voilà.
et c'est gratuit,
grande amplitude.
Voilà, et c'est gratuit pour les moins de 14 ans,
exactement.
Voilà, et gratuit aussi pour le conducteur d'une moto d'avant 1965,
voilà, c'est ça, si,
et au guidon de sa machine, hein.
Ouais, le plaisir, c'est aussi de voir des motos anciennes. Et on sait qu'il y a pas mal de visiteurs qui viennent en moto ancienne. Et donc, on leur permet d'aller sur un parking à l'intérieur, en fait, du circuit. Et pour acquérir leur moto sur un parking dédié à tous ces engins, effectivement, qui ont été construits avant 1965. Il faut savoir également que pour tous les motards, parce que ça, je sais que c'est question pratique, on veut pas forcément porter son casque toute la journée ou autre. Il y a une consigne, il y a un vestiaire et une consigne de casque qui est organisée à l'extérieur du circuit, juste à l'entrée, par la Mutuelle des Motards. Et donc, ça permet aussi aux motards d'être plus libres de ses mouvements toute la journée sans porter forcément tous ces gros accessoires, cuir et casque.
Oui, surtout s'il fait très chaud.
Surtout s'il fait chaud.
Parce qu'il va faire du soleil, je crois. Hein. Vous avez prévu. Vous avez réservé.
C'est rare qu'il fasse mauvais temps. Vraiment, je touche du bois, là, vraiment. Je ne devrais pas le dire, mais c'est rare qu'il fasse du mauvais temps aux coupes.
Oui.
Y a toujours un grand soleil qui nous accueille aussi.
Très bien, Xavier. Je pense qu'on a fait le tour un peu de ce grand week-end qui arrive, là, fin mai.
Très, très vite.
Fin mai. Et donc, j'espère qu'effectivement, vous allez avoir du soleil et aussi de la chaleur. Et puis, que tout se passe bien, correctement.
Merci.
Merci, Xavier.
Merci.
Je te souhaite une bonne journée.
Merci à toi et à tous les auditeurs également.
Merci. Au revoir.
Au revoir. What he said.
Bon voilà, Nico, tu vas nous parler du musée de la route nationale 13 qui s'appelle Station 70.
Oui, parce qu'en fait, dans un motojournal récent, j'avais vu deux pages sur un musée Station 70. Bon, il y avait un peu de pub aussi sur Internet, on en parle assez souvent, voilà. Et donc, nous sommes partis visiter ce musée, nous avons été reçus par un personnage qui tient cet endroit, qui s'appelle Luc, personnage emblématique et sympathique, qui a accumulé dans sa vie énormément de choses, des motos, des voitures, des vieux camions, des panneaux de signalisation, des jouets, des belles affiches, Grand Prix, Endurance. Et donc, nous sommes partis visiter ce musée et ça vaut le coup d'œil. Donc, voilà.
Voilà, et il faut préciser que ce musée officiel de la Nationale 13 est reconnu par la FFVE.
Tout à fait, il a eu les agréments, il est reconnu par la FFVE et puis il peut vous recevoir, il peut vous faire manger, vous pouvez vous restaurer.
Ah, j'ai vu qu'il y avait un beau petit coin bar et repas aussi. Hein.
Un beau petit bistrot à l'ancienne.
Un bistrot à l'ancienne.
Avec tout ce qu'on a connu quand on était enfant.
Très bien Nico, on écoute l'interview que tu as réalisée avec Luc.
Ici on se trouve à Haussmannville, un beau musée qui s'appelle le musée de la route 13. Et je vais vous présenter un personnage emblématique de ce musée.
Bonjour mes amis, je m'appelle Luc. J'ai monté ce petit musée à Haussmannville dans le Calvados. Je suis collectionneur principalement de deux roues, vieilles motos, vieux jouets, vieilles plaques émaillées, vieilles bagnoles. Grosso modo, chez moi, tout est vieux. Même moi d'ailleurs, il faut le reconnaître.
Et donc, en faisant le tour, là, on a vu, il y a des motos de course, il y a des mobilettes, il y a des voitures des années 70 qui nous rappellent nos ans de notre enfance. Et sur combien d'années tu as accumulé toutes ces belles choses ?
Et j'ai commencé ma collection à 12 ans, bien sûr avec les miniatures, avec les maquettes, hein, c'était la grande époque où les enfants avaient des petits catalogues et tu faisais des croix. Comme ça, quand il y avait Noël, jour de l'an ou quoi que ce soit, pouf, c'est autour d'anniversaire, tu faisais une croix. Donc beaucoup, ce qui était la locomotion, des camions, des bagnoles, des trains. Et bien sûr, après, ça a continué tout doucement. Avec 14 ans, les mobilettes, mais je continuais à collectionner les trains. Après, c'est arrivé à la 125, je continuais les mobilettes et je continuais les jouets. Et puis, c'est un truc sans fin, quoi. C'est un truc sur lequel il n'y a pas de frein.
Ouais, parce que j'ai vu, il y a beaucoup de jouets anciens, des soldats, des autos en plastique. Et en fait, ici... tout le monde peut retrouver une partie de son enfance.
Alors ce qui est vraiment intéressant, c'est que la locomotion, parce que c'est ça en vérité, hein, même si c'est une petite voiture, c'est de la locomotion en réduction, et c'est un souvenir, c'est vraiment dans l'esprit commun et dans la mémoire commune, la locomotion, parce que c'est un logo d'une marque de station-service ou une marque de bagnole, ça parle absolument à tout le monde.
Ouais, puis je vois, tu as un petit endroit pour... comment dire, réunir les gens, accueillir les gens, un petit bistrot à l'ancienne. Puis je vois, tu me dis qu'il y a beaucoup de motocyclistes qui passent. En plus, la région est vachement sympa, avec des belles routes et tout. Est-ce que tu es connu Est-ce que ton musée est connu?
Alors oui, parce que je fais beaucoup de télévision. Puis tu vois, tu es venu pour m'interviewer. Ouais, je suis connu, mais c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est que je puisse vivre de ma passion, vivre ma passion, pardon, c'est complètement différent, vivre ma passion, voilà, ça s'autofinance, c'est tout ce que j'ai besoin. La connaissance, après, en effet, je peux faire énormément de pubs et faire un piège à touristes. Mais des gens, s'ils ne sont pas intéressés chez moi, j'ai quand même que des questions à la con et des réflexions à la con. Donc je préfère être dans ma petite niche, avoir des passionnés, des motards, avoir des collectionneurs, c'est vachement plus sympa. C'est pas un centre de profit ici, c'est un centre de partage.
Et tu doutes bien qu'on partage ton avis.
Ah ça, j'en doute pas une seule seconde et j'espère bien.
Eh ben c'est bien. Et là, on a vu, il y a des belles affiches, des belles mobs, des beaux camions, des beaux tracteurs. Et puis un personnage comme toi, sympathique, accueillant, et avec un franc-parler, mais ça nous plaît bien. Écoute, je te remercie et puis merci pour ton accueil. Et puis tu nous disais qu'il y a des motocyclistes qui vont passer cet après-midi. En parler autour de nous parce que c'est vraiment un endroit visité, accueillant et chaleureux. Vas-y, Luc, je te laisse parler.
Oui, je fais un bisou à tous les motards. Le seul défaut qu'il y a sur une interview radio, c'est que les gens ne voient pas que je suis beau. Et ça m'emmerde profondément.
Non, mais j'ai fait quelques photos, et puis je montrerai tout ça au public.
Non, mais il n'y a pas de problème, tu peux te servir dans mon image comme tu veux. J'étais ravi d'être interviewé, merci beaucoup.
Et moi, j'étais ravi de que tu nous aies reçus. Salut, Luc.
Voilà, l'émission se termine. Nous remercions Sylvie, Nicolas et Jean-Michel pour les interviews réalisées en hommage à Fabrice Miguet. Nous vous rappelons l'événement majeur du week-end, le Grand Prix de France au Mans avec le départ de la catégorie MotoGP qui aura lieu à 14h. Salut à toutes et à tous. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même endroit sur les ondes de Radio Campus Lille. Bye.